La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique!
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskeapizza.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Et les grandes gueules du sport également sont prêtes en ce dimanche. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec David Douillet, Sarah Pitkowski, Fred Weiss, Christophe Cessieux. On va évidemment vous parler de Roland Garros dans quelques instants. Ça débute aujourd'hui avec les premiers matchs. Nadal-Zverev, ça c'est demain. C'est le choc peut-être de la quinzaine. L'Espagnol aurait-il dû être protégé? On en débat. 11h30, le débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre. Et puis 11h45, le bonbon nostalgique spécial Jeux Olympiques de Christophe Cessieux comme tous les dimanches. Et là, Christophe, tu nous emmènes en 1976.
Oui, je vais vous parler de ma première amoureuse. Bon, elle ne me connaissait pas, elle ne m'a jamais regardé, elle n'a jamais adressé la parole, mais moi j'étais fou d'amour pour Nadia Comăneci, la petite fée de Montréal qui avait étonné le monde en 76, le premier 10 de l'histoire de la gymnastique. Je vais raconter cette histoire et j'en ai des frissons, j'en ai les poils qui se dressent.
Le 10 sur 10, ce sera à 11h45, Nadia Comăneci par Christophe Cessieux. Groucho Marx a dit un jour: une alliance ne protège qu'un seul doigt.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Il joue sur revers, attention, Casper Ruud est en difficulté. Nadal a une balle d'attaque, il monte, elle est sur la ligne et il finit là-dessus. Immense champion, il enchaîne sa raquette, il n'en prend pas ses yeux. Rafa Nadal, grandissime.
Il va la chercher.
C'est incroyable, ce type est surhumain.
Grande Rafa.
Mais c'est un ace. Oh le mec, il est à genoux, Rafa Nadal.
Oui, grande.
Rafa Nadal. Je pourrais le crier 14 fois,
bien sûr.
Mais je peux plus.
Là, 92 titres, 22 grands chelems, 14 Roland Garros, l'Espagnol, Rafa.
C'est un premier tour qui n'arrange personne, ni Rafael Nadal, ni Alexander Zverev, ni l'organisation du tournoi. Rarement un tirage au sort de Roland Garros n'avait fait autant parler. L'Espagnol, qui n'est pas tête de série pour cette édition 2024, s'exposait forcément au pire jeudi, et le pire s'est produit puisqu'il affrontera demain le numéro 4 mondial. Le rêve d'une dernière danse, d'une épopée pour probablement son dernier grand chelem Porte d'Auteuil, a pris un sacré coup. La musique qui fout les jetons est cette question. Nadal, aurait-il dû être protégé? Oui ou non? Sarah Pitkowski?
Non, absolument pas.
Christophe Cessieux?
Bien sûr que oui.
David Douillet?
Non, évidemment.
Fred Weiss?
Non.
Avant de débattre,
seul contre le reste.
L'homme qui crie le plus de fois Rafa Nadal d'un coup, c'est Eric Salio. Salut Eric.
Salut à tous, Christophe, je t'aime.
Déjà prêt.
Eric aussi. Franchement, à écouter la prod, la folie de ce Eric Salio, mais moi je l'aime aussi. Franchement,
et il est déjà génial. Il est déjà prêt dans la cabine, ah ouais, RMC.
Oui.
Sur le Philippe Châtrier.
Mais oui, ce Eric. Choc, Christophe, Jean-Christophe, ce choc aurait pu être évité.
Alors tu vas nous dire tout. Juste après, tu nous parleras évidemment de la journée. Mais déjà, est-ce qu'il aurait pu être évité déjà?
Bah oui,
choc,
bien sûr. Ah bon, mais si Amélie Mauresmo avait promu Rafael Nadal tête de série, comme elle en avait le pouvoir. Ouais. Hier, en tout cas, en conférence de presse, Rafael Nadal n'a pas fait la moindre remarque sur son infortune.
J'étais à l'entraînement et quelqu'un m'a dit mon tableau. D'une certaine manière, c'est un tirage que je pouvais attendre. Quand vous n'êtes pas tête de série, tout peut arriver. Ça fait partie du job dans mon cas, il faut juste l'accepter. C'est comme ça, vous ne savez pas si c'est un tirage chanceux ou pas. Bien sûr, sur le papier, ce n'est pas le top. Je vais jouer contre l'un des adversaires les plus redoutables. Il arrive en ayant gagné Rome, un Master 1000. Ce n'est pas un petit tournoi, mais je vais me préparer pour lundi.
On l'a constaté, la directrice du tournoi s'en est tenue au classement ATP.
Si on avait pu, peut-être qu'on l'aurait fait, mais vous le savez aussi bien que moi, ça résout quelques problèmes, mais ça en amène beaucoup d'autres en parallèle de ce genre de petits jeux. Et Wimbledon eux-mêmes ont arrêté il y a bien longtemps.
Alors, cette dernière phrase, Amélie, est inexacte, puisque le tournoi londonien, en 2018, avait accordé une protection à Serena Williams, alors 181e mondiale, mais la championne américaine venait d'avoir son premier enfant. Entre un retour de grossesse et un retour de blessure, visiblement, il y a une différence. Pourtant, Pierre Gerber n'aurait pas été scandalisé si l'Espagnol avait été tête de série.
C'est un vrai sujet. Très sincèrement, à Roland-Garros, en ayant gagné 14 fois, je pense que c'est le seul où il n'y aurait pas de choc. À Roland-Garros, limite, vous le mettez tête de série, moi ça ne me choque pas. Il a gagné 14 fois.
Ah, mais si Nadal avait été promu, l'anglais Cameron Norrie, 32e tête de série, serait passé de la classe business à la classe éco. Et c'est le nœud du problème pour l'Alsacien.
Cameron Norrie, aujourd'hui, il est chèrement battu pour avoir cette place-là. Et c'est vrai que pourquoi est-ce que Raphaël, alors que effectivement, bah, c'est la loi du métier de ne pas pouvoir jouer, de vieillir. Je suis un bon syndicaliste, je ne sais pas. Mais comme dit, c'est une décision à prendre. Vous avez la chance de pouvoir commenter tout ça.
En fait, on va dire comme ça, Amélie Mauresmo s'est achetée une sorte de paix sociale et elle comptait sur le faible pourcentage de chances qu'un tel choc sorte de l'ordinateur. Malheureusement, le pire est arrivé.
Merci beaucoup Eric Salio. Tu restes avec nous parce que je sens que tu es dans le camp de Christophe Sessieux, donc tu vas pouvoir évidemment débattre avec nous sur ce Roland-Garros 2024 qui fait déjà beaucoup parler et forcément depuis jeudi avec l'annonce de ce choc entre Nadal et Zverev. Nadal aurait-il dû être protégé? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio.
Donne la parole à la bonne conscience du sport, voilà.
Je vais juste, Christophe. Je sais que Nadal invite au romantisme. Je le sais. C'est comme ça.
Non, mais tu
préfères. Mais je suis désolée, je suis obligée de vous ramener sur le plancher de la terre battue. On peut pas créer des règles subjectives dans le sport, sinon on en perd l'ADN du sport.
Sauf donc, que tu en crées quand même, les Anglais, eux, en créent sur le gazon de Wimbledon.
Ils eurent créé des règles leur ont amené des sacrés problèmes, parce que les Espagnols qui arrivaient avec leur classement de tête de série et qu'on déclassait parce qu'on estimait qu'un Espagnol jouait moins bien sur terre battue alors que la saison sur gazon c'est 3 semaines par an à l'époque. Maintenant tu peut en rajouter une ou deux, c'est 3 semaines par an, alors que le reste du temps n'est pas représentatif
du gazon. Mais ils ont réussi à imposer leurs règles, non?
Oui, mais ils se sont fait, ils sont revenus en arrière. Voilà, il y a bien longtemps qu'ils sont revenus en arrière.
Mais les Anglais prennent des positions, prennent des décisions que nous, on n'est pas capable de prendre.
Mais c'est pas question d'être capable de prendre.
Mais finalement, qu'ils n'ont pas assumé qu'ils ont été obligés de retirer.
Vas-y, Sarah.
Tu
la prenais juste pour Nadal. Alors après, tu
revenais là. En fait, quand tu commences comme ça, tu fais une jurisprudence.
Tu crées un précédent, évidemment.
Et donc, quelqu'un qui a gagné, alors on va te dire oui, mais alors lui il en a 14, mais alors donc Djokovic qui en a que 2 ou 3 ou 4 ou 5, lui il n'en a pas assez, alors que quand on voudra faire son dernier Roland-Garros, on lui donnera pas le statut de tête de série. Il a déjà un passe-droit puisqu'il bénéficie de son classement protégé. Il est 270e mondial, il aurait dû jouer les qualifications. C'est Rafael Nadal, il a eu 6 mois de blessure, donc il bénéficie de ce classement protégé qui lui permet de rentrer dans le tableau. On savait très bien que Nadal pouvait tomber contre Djokovic au premier tour, Zverev, ou contre un qualifié.
Sarah, il a un autre passe-droit. Il a le droit de choisir l'horaire de son match. C'est aussi un
alors, on parlera dans un second temps de la programmation. Ça va tomber cet après-midi. Eric Salio nous donnera des informations. Pour l'instant, lui a une préférence, mais on ne sait pas si elle va être écoutée, cette préférence. Mais sur le côté protégé, déjà.
Moi, je suis choqué que Christophe ne puisse pas penser à Norrie.
Non, mais je m'en rien à dire, je ne sais même pas qu'il existait. Quoi,
mais lui, il a le droit d'exister, il a le droit de vivre, c'est son métier en fait. Il n'a pas le droit de respecter le classement.
Mais tu
es battu.
Toi, tu respectes pas les légendes, c'est différent. Tu respectes pas les légendes.
Mais si, justement, je le respecte. Il a le droit de jouer, il a le droit de choisir.
David Douillet à Sydney, alors qu'il était blessé, on aurait dû lui filer la médaille d'or directement, moi je dis. Voilà. Il y a des gens qui respectent pas le pauvre Norrie.
Il se bat toute l'année pour avoir ce classement, pour pouvoir être tête de série, pour pouvoir faire son métier. Et toi, exactement, tu préfères les superstars qui, honnêtement, je te croyais gros romantique. En fait, tu ne l'es pas. C'est l'inverse du romantisme.
Vous êtes des pisse vinaigre, vous êtes des pisse froid. Voilà ce que vous êtes tous les trois. Tout autant les uns que les autres.
Juste les stars. Tu ne respectes que les stars. Moi, je préfère tout le monde. Je suis beaucoup plus ouvert.
C'est pas les stars. C'est Nadal.
C'est Nadal. Et pourquoi pas pour d'autres après?
Écoutez-vous, les copains, et juste revenons sur ce débat qui nous préoccupe. C'est Rafa Nadal. Aurait-il dû être protégé? Vous pouvez accuser Christophe. Pour l'instant, il ne vous a pas donné ses arguments. David Douillet.
J'ai une question à te poser, Christophe, parce que t'as pas encore donné
la réponse. J'y répondrai pas.
Tu vas pouvoir y aller. Non, mais, est-ce que tu penses sincèrement, parce que moi je sais ce que...
Que Nadal aurait-il accepté d'avoir un truc
est-ce
protégé?
Qu'il aime, est-ce non. que, non, non, non. Est-ce qu'il aime, est-ce que Nadal est un personnage qui aime les victoires qui sont dénuées de mérite?
Non, mais ça aurait pas été dénué de mérite. Bah
oui, ça aurait pas été dénué de mérite.
Ça aurait pas été dénué de mérite, David, de lui donner un adversaire autre que le mec qui sort.
Fondamentalement, je te parle de ça, c'est parce que c'est le fond du truc, quoi. Que ce soit le premier tour ou le dernier tour, est-ce que c'est un personnage qui aime les victoires, qui sont dénués de mérite, toi? C'est
mais voilà. Tous ces autres Roland Garros, il affrontait des joueurs un peu moins forts au premier tour, et c'est pas pour ça que ses victoires au final.
Est-ce qu'il les aime ou pas?
Bah,
est-ce qu'il les aime, enfin, ces matchs? Non. Évidemment que non.
Il a envie de gagner, il a envie d'aller le plus loin possible.
Très sincèrement. Mais quand t'as gagné, quand tu as gagné 14 fois Roland Garros, je veux dire, tu n'aspires qu'à une chose. T'aspires qu'à faire que des grands matchs. Ouais. C'est tout. Et que ce soit au premier tour ou au final, c'est la même.
Tu le vois, c'est pas un problème. Sorti en 3-7, 6-1, 6-2, 6-0.
Moi, j'aurais
de la peine. J'aurais de la peine. Vous avez pas de peine puisque vous respectez pas les gens.
Mais bon, qu'est-ce que
vous
voulez? Justement, j'aurais de la peine s'il perd contre quelqu'un de faible.
Exactement.
J'aurais de la peine s'il perd contre quelqu'un moins fort que lui.
Imagine-toi, il est tête de série. Il joue contre quelqu'un de plus faible que lui. Il perd au premier tour. T'es pas plus triste, là, finalement?
Voilà. Ben oui.
Est-ce que ce match-là, finalement, il va plus sympa?
Il tombe contre le numéro 33e mondial. Il a pas plus de chance aujourd'hui que contre Zverev.
En tout cas, tu disais tout à l'heure, les organisateurs de Roland Garros sont déçus, sont tristes. Je suis pas si sûr que ça, moi. Même si Amélie Mauresmo avait l'air abattue. Mais au contraire, on n'a jamais autant parlé d'un premier tour de Roland Garros que depuis qu'on a le tirage avec ce match entre Zverev et Nadal. On va, peut-être que lundi soir, le tournoi n'aura plus aucun intérêt parce que Rafa aura disparu. Mais en tout cas, c'est vrai que pour faire le buzz en début de tournoi, c'est exceptionnel.
Oui, mais quoi qu'il en soit, le premier match de Nadal, même si ça n'avait pas été contre Zverev, ça aurait été un événement en soi. Quoi qu'il se passe, parce qu'à chaque fois on attend la fin.
Oui, mais c'était risqué. Oui, mais c'était plus risqué, j'y sais. Parce que ça veut dire que tu perds contre un mec plus faible entre guillemets. Alors que là, directement, c'est soit Zverev qui gagne, soit c'est Nadal qui fait un exploit.
Ça passe ou ça casse. Quoi.
Eric Salio va venir au secours de Christophe Cessieux. Bah justement, on va reparler de l'histoire. Eric Salio, pourquoi tu penses qu'il aurait dû être protégé?
Non, je pense à son parcours personnel depuis 2 mois. On voit bien qu'il galère. Il aurait eu besoin d'un petit coup de pouce, tout simplement, pour rentrer de manière un peu plus tranquille dans le tournoi. Et je pense qu'une protection, genre tête de série 25, c'était parfait, parce que ça veut dire qu'au troisième tour, il jouait forcément un top 8. Ça veut dire que, on l'a pas respecté.
Non, mais donc, tu fais un tableau comme ça, quoi.
On n'a pas respecté.
Ils l'ont fait, les Anglais, pour Serena Williams. Tu t'étais.
Exactement.
Comment t'avais réagi, Sarah, à l'époque?
Mais c'est pas normal.
Ça n'avait scandalisé.
Eric, le classement au point mouillé,
ça aurait été logique.
Il est numéro 25.
Et vous faites rigoler avec
Cameron Dory. On comprend rien.
Eric Salio, vous faites rigoler avec Cameron Dory, vous le connaissez même pas.
Bah oui.
Mais que vaut Cameron Dory par rapport à Nadal? Il y a 2 secondes.
Pour la légende de ce tournoi.
Eric, tu viens de renier.
Elle est scandaleuse, Eric.
Ah oui, elle est scandaleuse. Tu viens de renier l'esprit de compétition.
Sincèrement,
Eric, tu viens de renier l'esprit de compétition.
Moi, j'aurais été Cameron Dory, j'aurais dit j'offre mon statut de tête de série.
Il avait fait ça. T'as beau être le numéro 1, il faut battre tout le monde, qui que ce soit. Et c'est comme ça. Et t'as pas de statut à avoir. Je suis désolé. L'esprit de compétition, c'est tout le même au même niveau. Tous les participants sont au même rang au premier tour. Et c'est le meilleur qui va passer chaque tour. Et c'est comme ça que la compétition existe et qu'elle est belle. Et c'est juste, ça ouvre justement la porte à celles et ceux qui sont pour devenir
David,
au moins fort.
Faisons un tirage au sort intégral pour Roland Garros à ce moment-là.
Oui, à ce moment-là.
Tu fais Djokovic, Alcaraz dès le premier tour. Ça te pose pas de problème.
Et moi, ça me dérange pas.
Allons-y. Allons-y.
Une finale entre Cameron Norrie.
Une finale entre Cameron Norrie et Gigi Wolf.
En fait, à un moment donné, là où je rejoins Eric, même si ça s'entend, vos arguments, on prend la règle et puis on respecte la règle.
T'as vu, mais c'est quand même.
Attends, je peux dire un truc.
C'est les journaleux contre les sportifs, là, quand même.
Oui, c'est vrai. Mais Tiger Woods, je vais revenir au golf. Tiger Woods, quand il gagne Augusta, ou quand il gagne un grand tournoi et un tournoi du Grand Chelem, donc ça s'appelle des majeurs, eh bien, il a un droit de jeu durant
toute sa vie.
Mais voilà. Il a un droit de jeu, Nadal.
Il a un droit de jeu durant toute sa vie. Donc quelque part, il est protégé parce que si on prend son classement, non mais si on prend
son jeu,
ça veut dire qu'il peut disputer le tournoi autant qu'il veut. Alors que normalement, il faut respecter un classement. Mais
si c'est le golf, tu luttes contre toi-même. Ça n'a rien à voir.
J'essaie de te défendre, mon cher Eric.
C'est un bon argument
parce que à partir du moment où tu es le plus grand terrien du monde, le plus grand terrien de l'histoire, eh ben tu peux avoir quelques privilèges sur ce tournoi de Roland Garros, d'autant que tu sais que c'est le dernier.
Est-ce qu'il est passé par les qualifs? Est-ce que c'est une vraie question?
Est-ce qu'il est passé par Nadal dans les qualifs?
Donc,
il fait jouer un classement protégé.
C'est là où tu vois qu'un tournoi est immense, c'est qu'un tournoi peut imposer certaines règles et protéger la légende absolue de ce tournoi. Je pense qu'il aurait fallu.
Comme l'a fait
Wimbledon avec Serena Williams et comme le font les grandes institutions. Roland Garros n'est pas une assez grande institution pour faire ce genre de choses.
Comme le dit Amélie Mauresmo, ça peut s'entendre, sauf que ça engendre derrière une cascade de problématiques.
C'est quoi la cascade à part le 32e?
Attends. Tu déclasses lequel?
La société des avocats.
Mais tu places à quelle position, Nadal?
Tu fais un doigt mouillé. C'est pas un doigt mouillé, ça veut dire que t'organises. On lui fait une petite fleur, mais on sait qu'au troisième tour, il a du lourd.
Et tu organises, on n'en fait plus de tirage au sort, et tu t'organises le tableau, quoi. Alors je vais faire jouer un tel contre un tel pour la fiche.
Attendez, pardon. Alors je vais prendre un autre exemple parce que le golf, ça vous a pas convaincu. Attendez. Donc quand
JE ou JE.
Non, mais quand une équipe reçoit une Coupe du Monde, elle a un classement protégé, c'est-à-dire qu'elle est dans la poule A, et puis elle sait qu'elle va affronter.
Quand
on a les Jeux Olympiques et qu'il y a l'équipe de France de basket ou l'équipe de France de hand qui peut choisir sa poule en fonction de je vais éviter qui, je vais prendre qui au tirage et tout ça. C'est exactement la même chose et personne n'est en train de se dire.
Tu sais pourquoi? Parce que la poule, elle n'est pas décisive.
C'est pas le sport.
C'est un match de poule.
Mais c'est pas décisif non plus.
C'est pas un match couperet. Là, c'est un match couperet. C'est-à-dire que tu perds au premier tour, c'est fini.
C'est une règle de grand-père. C'est une règle de grand-père, cette affaire-là de protéger, pas protéger. Parce que l'histoire, elle est quoi? C'est quand tu fais une compétition, il n'y a que la première place qui compte. Tu dois battre tout le monde pour aller.
Mais non, mais ça c'est des
gros.
Que
les gros, place,
les gros
pas,
se rencontrent dès le départ, on s'en fiche.
Ça en France une porte ouverte.
On a envie de prolonger notre plaisir, on a envie de le voir au moins pendant une semaine.
Vous aimez votre confort.
C'est pour ça que c'est un mythe au romantisme.
David, pour te répondre, ça c'est on enfonce une porte ouverte quand on dit il faut battre tout le monde. C'est comme quand on voyait une Coupe du Monde, on dit l'équipe de France doit battre tout le monde. Pardon, mais avec le tirage au sort, elle bat pas le Brésil en même temps, l'Angleterre, l'Argentine, l'Espagne, l'Allemagne. Non, c'est un tirage au sort. T'es pas obligé de battre tout le monde pour être champion du monde. Raphaël Nadal, il faut
tu dois être en capacité. Non, non, j'y sais, je suis pas d'accord. Tu dois être en capacité potentiellement de battre n'importe qui.
Il est en capacité, sauf que tu sais très bien que ça va être très compliqué pour un premier tour de chauffe. Il a jamais fait 5-7 depuis 3 ans ou 2 ans. Ça va être hyper compliqué. Donc forcément.
Mais ça rajoute du piment.
Mais ça va rajouter du piment 2 heures.
Vous aimez le confort.
C'est au détriment de quelqu'un d'autre, en fait. C'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que quelqu'un, encore une fois.
Mais c'est Nadal, on s'en moque.
Mais c'est ça
que
tu veux pas dire. Je vais essayer de vous mettre d'accord.
Okay, si on essaie d'être un tout petit peu objectif, Eric, je m'adresse aussi à toi. Les derniers matchs de Nadal, on sait que son autonomie, elle peut pas dépasser 35-40 minutes. On est bien d'accord? Aujourd'hui, Nadal, son tennis, il est très, très, très loin d'être à son meilleur niveau, même de pouvoir tenir 3-7 aujourd'hui. Donc, bouleverser un règlement, prendre une décision aussi impactante. Nadal, qui est à son 10e titre, qui a 4 ans de moins, qui revient d'une blessure, mais qui a encore un niveau important, je peux entendre que ce débat existe. Aujourd'hui, on est à l'aube. C'est son dernier Roland. Je préfère qu'il joue Zverev sur le central de Roland-Garros, sur le Philippe Chatrier, avec une ovation incroyable, qu'il joue un qualifié, ou même contre un qualifié, on n'est même pas sûr qu'il puisse tenir 3-7.
Très bien. Eric Salio, juste rapidement. Le débat, c'est terminé. On en reparlera plus tard. Mais très rapidement, déjà, le programme du jour, qu'est-ce qui nous attend de croustillant? Et surtout, cet après-midi, on devrait connaître l'heure de cette rencontre entre Nadal et Zverev.
Oui, oui, absolument. Ça tombera dans l'après-midi. Donc le programme du jour, depuis quoi, il est quelle heure ? Une vingtaine de minutes. Hugo Humbert est sur le Linglen face à Lorenzo Sonego. Sur le central, ça débute qu'à midi avec Osaka, et on aura ensuite Alcaraz-Wolf, Gigi Wolf, le fameux Wolf là que je vois en finale de Roland, suivi de Caroline Garcia contre Eva Lys et d'autres Français. Richard Gasquet en milieu d'après-midi sur le Linglen face à Borna Coric. Chloé Paquet. Puis si vous avez des places annexes sur le Simone Mathieu, on a accès au Simone Mathieu avec le annexe. Corentin Moutet-Jarry, ça va être explosif. Parce qu'ils se sont joués cet hiver à Santiago. Et Corentin Moutet, évidemment, il a
demandé à ce que ce soit le feu. Hein.
Oui, pourquoi ? Parce qu'il s'est pris le public de pleine face au Chili. Et surtout, il avait provoqué Jarry en servant à la cuillère sur le premier point. Il fait ace, cuillère, service à la cuillère sur le premier point. Évidemment, ça n'avait pas plu aux Chiliens. Et Jarry, il avait battu Jarry. Jarry lui a fait une petite remontrance. Il l'a à peine regardé. Il dit, allez, t'as perdu. Suivant. Prochain épisode, ça va être chaud.
Et ce soir, Night Session entre Wawrinka et Murray.
Et Eric, on se retrouve tout à l'heure à 13h. On va les dégager, les pistes froides. On sera juste tous les deux à l'antenne. On va pouvoir parler de tout ça.
Je suis très déçu par ce débat. J'ai perdu beaucoup d'esprit pour beaucoup de débatteurs.
J'ai beaucoup de choses à dire, les copains. Sachez que depuis quelques minutes, la radio digitale spéciale Roland Garros vient de s'ouvrir. Toutes les informations autour de cette édition, tous les matchs commentés, rendez-vous sur la radio digitale 100% terre battue. Vous allez sur rmcsport.fr. Également, grâce à Eric Salio et toute la cellule tennis, et notamment Anthony Resch, il y a un podcast qui sera disponible tous les soirs, un podcast quotidien, court numéro 1, pour tout savoir sur chaque journée de Roland-Garros. Et puis ce soir, forcément, c'est l'événement à partir de 19h, Bartoli Time, sans Marion Bartoli, car je serai avec Sarah Pitkowski. Mais Marion Bartoli sera tout de même là. Elle aura un très beau cadeau avec une interview réalisée pour Prime Video, pour RMC. Interview de Raphaël Nadal à 19h ce soir sur RMC. Donc soyez bien présents avec nous. Merci Eric Salio. On te retrouve tout au long de la journée. Allez, dans quelques instants, le débat caché. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h32 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux, David Douillet, Fred Weiss. Dans 10 minutes, restez bien avec nous. Le bonbon nostalgie comme tous les dimanches, signé Christophe Cessieux. C'était mieux avant. Nadia Comaneci, son 10 sur 10 aux Jeux Olympiques au Canada, à Montréal, en 1976. Mais tout de suite, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Attention à toi.
Les GG ne savent pourquoi.
Parce que si tu n'as pas parlé de Pogacar dans cette émission,
on me retire ma carte de presse.
Ouais, direct.
Bon, c'est mal barré.
Est-ce qu'il peut y avoir d'autres ?
Les GG ne savent rien, vous le savez. Pourtant, elles vont devoir tout vous dire. On voulait parler de Pogacar, on voulait parler de
Pogacar. Non, mais au moins,
C'est l'actualité. Mais les jeunes, ils veulent plus de Pogacar. Les jeunes.
Mais on n'est pas jeunes.
C'est vrai qu'il est vieux, Pogacar, t'as raison.
Ouais.
Le guet-apens du jour.
Un peu de golf, alors.
Ah, j'aurais adoré. Le guet-apens du jour, c'est ça.
Pour Tadej Pogacar, qui va aller chercher cette sixième victoire d'étape. Il profite. Tadej Pogacar remporte plus qu'une étape aujourd'hui. Il remporte le Giro. Tadej Pogacar, seul au monde.
Je vais garder la carte de presse. Tadej Pogacar, seul au monde, qui a remporté hier sa sixième étape sur le Giro, un record, tel un empereur romain, le Slovène, va rouler sur Rome aujourd'hui pour clore ce Tour d'Italie, mené de bout en bout, une victoire écrasante, avec près de 10 minutes d'avance au général sur le deuxième. Durant 3 semaines, le double vainqueur du Tour de France n'a laissé que des miettes à ses adversaires. Tadej Pogacar, hier sur Eurosport.
C'était un autre test pour moi. Avant cet été, pour voir comment ça se fait, parce que je voulais terminer le Giro dans le bon esprit, une bonne forme. Et je crois que j'y suis arrivé. Mais c'était une bonne préparation.
Le Giro, une bonne préparation pour le Tour de France. Durant 3 semaines, Pogacar ne s'est jamais ménagé, même s'il avait déjà course gagnée au bout d'une semaine. Il a voulu rouler encore et encore. Et dans un mois, vous l'avez bien compris, il devra remettre ça pour la deuxième partie de son défi fou, le doublé de Giro Tour de France. Notre question, Pogacar, est-ce qu'il en a trop fait ? Oui ou non ? Christophe Cessieux ?
Non.
David Douillet.
Non.
Fred Weiss.
Non.
Oh bah donc, Sarah Pitkowski.
Non.
Bon, bah on va annuler ce débat, alors on va faire autre chose. Parce que tout le monde est d'accord.
Mais dis oui, toi.
Alors, je pense que ça s'adresse à moi. C'est ça, David? Alors, je dis oui sans aucun problème et je vais vous répondre dans quelques instants. Pourquoi non, Christophe Cessieux?
Pourquoi non? Parce que ça sert à rien de courir contre nature. La nature de Poggi, c'est d'être offensif, c'est d'être à l'attaque, c'est de d'avaler les victoires comme le faisait Merckx à son époque. C'est un cannibale, on l'a vu encore hier. Mais je suis pas sûr qu'il entame plus que ça, son physique. Hier, il a attaqué d'un peu loin quand même. Il a fait tout le dernier col et la descente en tête, mais il est tellement au-dessus des autres qu'il s'ennuie dans le peloton, en fait. Il s'ennuie dans le groupe de tête. Lui, il a besoin de d'en donner un peu plus. Et je suis pas sûr qu'une préparation mi-molle aurait été pour lui, quoi.
Ça serait quoi l'intérêt? Ce serait quoi l'intérêt pour lui, alors qu'il adore, justement, il est cannibale, ce serait quoi l'intérêt d'aller avec le frein à main et
alors, ce serait quoi l'intérêt? Tous les champions qui ont essayé de se frotter à Giro Tour de France le disent, c'est extrêmement dur. Et lui, dans cette première partie, avec le Giro, il ne s'est jamais économisé. Il a toujours joué pour la gagne. On s'est dit au bout d'une semaine, même au bout de deux semaines, bon, là ça y est, il a mis une claque à tout le monde, maintenant il va pouvoir un petit peu se reposer.
Mais c'est pas un gestionnaire, c'est pas un épicier. Toi, tu adores les épiciers, mais c'est pas un épicier pour Gadjar. C'est un combattant.
Le sport de haut niveau, c'est aussi de la stratégie. Et la stratégie, c'est pas tout. Et surtout, le vélo, c'est pas toujours de courir devant. Voici ce qu'a dit Romain Bardet cette semaine, parce que Romain Bardet, il voulait aller une victoire d'étape, et puis Pogacar lui a dit non,
je te la laisse pas.
Je ne pense pas que Pogacar vienne me chercher, il a juste envie de faire la course. C'est un coursier, et quand il sent qu'il y a de l'excitation et de l'adrénaline, il sent que les mecs ont mal aux jambes, et il aime y aller, c'est tout. Mais à un moment donné.
C'est pas une critique qu'il faut
en faire. Mais c'est pas, c'est même pas une critique à l'encontre de Tadej Pogacar. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment donné, un grand champion, il doit aussi se ménager, s'il est toujours devant, déjà, ne serait-ce que même pour son image par rapport aux autres, parce que le peloton commençait à grincer des dents, c'est-à-dire que bon, ça va, t'as gagné, laisse-nous un peu des étapes. Il en laisse jamais. Je trouve qu'il y a un problème. Et vous verrez, j'en terminerai là, David, vous verrez, si au bout d'une semaine ou au bout de 10 jours de Tour de France, s'il a une vraie craquante, là, tout le monde dira, mais regardez au Giro, il a couru comme un dingue. Ça s'explique maintenant. Ses efforts.
C'est pour ça que ma réponse,
à l'instant, c'est effectivement difficile de répondre.
Aujourd'hui, il peut y avoir un doute.
Sauf qu'il se connaît depuis longtemps, quand même.
Cyril Guimard te dira, je sais pas si je l'ai déjà dit dans cette émission, que le mec qui arrive le premier se fatigue beaucoup moins que celui qui a passé 2 heures de plus sur le vélo
derrière. Ok, David Seyet.
J'y sais, moi je pense que Tadej Pogacar, c'est un grand pro, il se connaît parfaitement, il n'en est pas là par hasard. Ton raisonnement est tenu si à chaque victoire d'étape et en remportant ce Giro, s'il avait galéré, s'il avait été à la peine, s'il avait dû arracher chaque seconde, tu vois, à chaque mètre de l'asphalte, etc. Là oui, tu auras raison. Mais le mec, il est en déroulé. Il en a encore sous la pédale.
Mais tu me parles d'expérience. Tranquille. Mais il en sait rien. C'est la première fois qu'il le fait.
Mais il le sait. Il se connaît, tu vois, dans sa préparation.
Deux grands tours de suite, 3 semaines de suite. Il ne sait pas.
Mais il connaît sa préparation, il connaît son corps, il connaît ses capacités, etc. Mais
donc, si
il va s'être servi du Giro comme une préparation, comme il l'a dit en conférence de presse, et tu verras que sur le tour, il aura pas de défaillance. C'est sûr.
Alors après, dans le vélo, il y a la préparation et le suivi des analyses de performance des coureurs cyclistes. Elle est particulière par rapport à ta VO2 max, par rapport à l'énergie que tu dépenses. En fait, c'est presque scientifique, en fait. Donc de mon point de vue, je me pose la même question. J'ai envie de te dire, j'ai envie d'attendre le début du tour pour voir effectivement s'il a grillé des cartouches. Mais je me dis que son équipe, et là je me retourne vers toi, Christophe, que aujourd'hui, sur le Giro, on a donc analysé effectivement toutes ses performances de manière scientifique et on a dû voir qu'il n'était pas dans le rouge, même s'il a 10 minutes d'avance et même s'il partait tout seul. Je me doute bien qu'en fin de journée, on lui donnait les analyses scientifiques au point de dire qu'il était.
Les analyses scientifiques, c'est pas la NASA non plus. On l'aime,
bien sûr que si. Dans le vélo, on est sur ces analyses.
La NASA s'inspire du vélo.
On l'aime. On l'aime. on l'aime parce qu'il est insolent, mais attention à pas trop l'être. Le dernier qui a réussi le Giro, le doublé, c'est en 98.
Oui,
c'est pas comme si ça arrivait tous les ans. Donc c'est dire si c'est exigeant et si c'est dur.
On en a pas tous les ans. Des Pogacar, on en a pas tous les ans. D'autant que on le rappelle, tous ses adversaires sont allés au tapis et notamment Vingegaard qui est le seul à mon avis qui peut battre Pogacar, c'est Vingegaard. Et Vingegaard, il est quand même pas.
Si jamais l'avenir me donne raison, on en reparlera. Si elle ne me donne pas raison,
on fera des débats dans l'intégral tour, t'inquiète.
On l'aura oublié. Si j'ai pas raison, non, on l'aura oublié. 11h40, on se retrouve dans quelques instants pour C'était mieux avant, spécial Jeux Olympiques 1976, Nadia Comaneci, racontée par Christophe Cessieu. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h43, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin David Douillet, Sarah Pitkowski, Fred Weiss, Christophe Cessieu. Restez bien avec nous à partir de midi. Votre programme sur RMC continue. Les paris RMC, qui va gagner Roland Garros? Chez les hommes, chez les femmes, c'est pas facile et on va vous donner les meilleures cotes avec toute la Dream Team et nous serons en direct de la Porte d'Auteuil évidemment et puis après-midi magnifique sur RMC notamment à 15h le Grand Prix de Monaco. Mais tout de suite, c'est l'instant nostalgique.
Les GG.
Tatopec démarre à son tour et passe les trois hommes. Mimoun reste dans sa foulée. C'est une empoignade extraordinaire.
Jesse Owens, il arrive au premier flash avec un temps de 10 secondes et 3 dixièmes.
Marito Zeperek qui revient à la hauteur de Brice Guida.
C'était mieux avant.
1976, Nadia Comaneci marque l'histoire des Jeux Olympiques.
Ce 18 juillet 1976, il y a à peine 24 heures, que la reine d'Angleterre et souveraine du Canada a officiellement déclaré ouvert les Jeux de Montréal.
Sa Majesté, la reine. Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques de 1976. Célébrant la 21e Olympiade de l'ère moderne.
Elisabeth II, déjà à l'époque l'une des personnalités les plus connues de la planète, va bientôt voir sa célébrité battue en brèche, non pas par une reine, mais par une fée, toute de blanc vêtue. Débarquée quelques jours auparavant dans l'anonymat le plus absolu, Nadia Comaneci se prépare en silence. Du haut de ses 1m53, la petite gymnaste roumaine a déjà fait parler d'elle l'année précédente, en obtenant à seulement 13 ans le titre de championne d'Europe du concours individuel. Mais les Jeux, c'est évidemment autre chose. Et c'est surtout la chasse gardée des athlètes soviétiques qui, depuis la fin de la guerre, trustent quasiment toutes les médailles dans cette discipline. Les favorites se nomment Olga Korbut, reine de la poutre et des exercices au sol, et surtout Ludmila Toritcheva, la championne olympique en titre du concours individuel. Des soviétiques, sûres de leur fait et de leur supériorité, qu'elles imposent d'entrer dans les premières épreuves du concours par épique. Par équipe. Pourtant, au soir de la première journée, c'est la petite Nadia qui va ravir la vedette aux poupées russes lors de l'épreuve des barres asymétriques. Korbut vient d'en terminer, elle est en tête, mais voilà que se présente Comaneci, sa petite queue de cheval, retenue par un fin ruban rouge et blanc. L'histoire est en marche.
Perfection à la plus tendue. Regardez la hauteur. Et elle se prépare pour faire sa prise de l'an qui est réussie et le hec.
Dans le Forum de Montréal, c'est la stupéfaction. Nadia vient de réussir un enchaînement tout simplement parfait. Mais les juges sont bien embêtés pour la noter. Il ne reste plus en magasin que le 10. Une note qui n'a encore jamais été attribuée dans l'histoire de la gymnastique. La juge canadienne raconte.
Je devais procéder à l'affichage de la note finale. Et pendant ce temps-là, le public vraiment s'est patienté.
D'habitude, je ne regarde pas les notes parce que j'ai senti que j'ai fait un exercice bon.
Et c'est toujours l'anxiété qui règne.
J'ai eu la confirmation de la direction de la compétition que je devais afficher le 1.00.
Et j'ai tourné ma tête et je regardais le...
C'est ça!
1.00.
Mais on lui donne 1, mais en réalité, c'est 10.
J'ai demandé à une collègue qu'est-ce que se passe avec l'affichage. Elle m'a dit que je crois qu'il est peut-être un 10.
Mesdames et messieurs, pour la première fois dans l'histoire du sport, un 10 parfait, du jamais vu.
Fantastic, what a precedent.
That's perfection, and that is Olympic history for Nadia Comaneci. 10 dead,
Le 10, la perfection absolue pour Nadia. Visage effaré qui tombe dans les bras de Bella Caroli, son entraîneur de toujours. La nouvelle parcourt la planète à la vitesse des images satellites. Le monde est sous le choc et surtout sous le charme de la petite fée roumaine.
Une reine. La reine, c'est Nadia Comăneci.
Nadia, la divine. Celle qui, hier soir, a ébloui des millions de téléspectateurs. Une perfection qui coupe le souffle.
Regardez cet élément fabuleux de beauté, de précision, de travail aussi, que tout commentaire est superflu.
L'extraordinaire exhibition de la petite roumaine Nadia Comăneci.
Comăneci est la première grande vedette des Jeux. Elle a atteint le score parfait, la note 10.
Nadia qui danse, qui vole autour des deux barres. Ce n'est plus du sport, c'est autre chose.
Une reine est née et son règne va se prolonger tout au long de la quinzaine canadienne, soir après soir, épreuve après épreuve, elle va ravir le monde et changer les règles de la gymnastique. À chacun de ses passages, c'est l'hystérie, une folie collective dans laquelle plongent les juges, qui accorderont pas moins de 7 notes parfaites à la petite fée de Montréal, assortie de 3 titres olympiques, d'une médaille d'argent et d'une autre en bronze. En moins de 2 semaines, l'inconnue des Carpates est devenue une icône mondiale.
Première et championne olympique, Nadia Comăneci, Roumanie, Roumania.
Une star dont le président roumain, le sinistre Nicolae Ceaușescu, va immédiatement s'emparer. L'aubaine est trop belle pour le dictateur qui, au retour de sa championne, en fait un symbole de son pouvoir et lui offre une autre médaille, celle de la faucille et du marteau. Nadia est contrainte de se fendre d'un discours officiel.
Cher camarade Nicolae Ceaușescu, je suis très émue car aucune médaille ni aucun titre au monde ne vaut la distinction que vous accorde votre propre pays. De la main du fils le plus aimé de Roumanie, père aimant de la jeunesse de notre patrie, vous, le camarade Nicolae Ceaușescu.
Et le camarade Nicolae ne veut plus partager sa fée avec son entraîneur, Bella Caroli, qui présente le défaut d'être issu de la minorité hongroise et de ne pas avoir respecté le fils du président.
Un jour, pendant l'entraînement, toute une délégation débarque. Il y a ce mec en particulier, avec une veste en cuir, Nicu Ceaușescu. Je ne savais pas qui c'était. En arrivant, il s'exclame « Oh, c'est mes petites filles !» Je lui ai dit « Tes filles ? Tu es qui ? Mais qui es-tu, mon Dieu ? Virez-moi tout ça !» J'ai dit « Mettez-les dehors !» J'avais mis dehors le grand président des jeunesses communistes, Monsieur Ceaușescu Junior. Sur le moment, je n'ai pas réalisé que je venais de me tirer une balle dans le pied.
Et quelques mois plus tard, après des championnats du monde décevants, la prédiction de Caroli se réalise. Il est exfiltré et son athlète transféré à Bucarest ou privé de son coach. Elle va dépérir, pensant même à en finir.
Pour moi, la gymnastique sans Bella, ce n'était pas pareil du tout. Et j'ai essayé non pas de me suicider, mais de trouver une façon de leur faire comprendre que ce n'était pas vraiment une bonne chose pour moi. À cette époque-là, j'ai voulu prendre ma retraite sportive, je ne voulais plus faire de gym. Du coup, ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient rien faire et ils m'ont rendu Bella un an plus tard.
Mais le temps presse désormais pour Nadia et Bella. Il ne reste que 5 semaines avant les Jeux de Moscou, trop court pour refaire de Nadia la championne de 76. D'autant qu'en 4 ans, la gymnaste a bien changé. Oubliez la petite liane au corps d'enfant, elle est désormais une grande et belle jeune femme dont les formes sont moins adaptées aux exigences de la gym. Pourtant, Nadia se présente aux Jeux de Moscou avec le couteau entre les dents. Quelques semaines, à force de travail acharné, elle est redevenue performante et prétend à la médaille d'or. Malheureusement, une chute aux barres asymétriques le premier jour la contraint ensuite à la perfection. À la bord du dernier agrès, Nadia est deuxième, mais peut encore toucher l'or si elle sort un enchaînement parfait. La Roumaine se présente à la poutre. La tension est insupportable. Une petite hésitation là pour Nadia. Mais quelle magnifique performance, quel que soit le score, qui pourrait ne pas suffire, c'est tellement bon de la voir faire son retour au sommet. C'était un test pour une vraie championne. Elle a besoin d'un 9,95 pour atteindre l'or. Caroli attend, Nadia attend aussi. Et il n'y a pas de raison pour que ces dames se pressent. Elles ont certainement toute la nuit devant elles. L'attente se fait interminable. Bella Caroli et Nadia ont le visage fermé. Ils sentent bien qu'un mauvais coup se prépare.
Elles ont mis 28 minutes pour sortir ma note.
Et les sifflets envahissent la salle. 9,85. Avec cette note, l'or va à Elena Davidova. Bella Caroni ne semble vraiment pas convaincue. C'est à ce moment-là que j'ai dit c'est dégueulasse. C'est du vol de très haut niveau. Et le bronze revient à Nadia Comaneci.
Je n'ai jamais dit qu'il s'agissait d'une conspiration. Le seul truc que je peux dire, c'est que j'avais laissé la porte ouverte. Si je n'avais pas fait d'erreur, j'aurais été intouchable.
Le titre s'envole et avec lui les plus belles années de la Roumaine qui ne retrouvera plus jamais son niveau d'antan. Elle rentre en Roumanie, un pays qui se ferme à mesure que la folie de Ceaușescu s'amplifie. En 1981, profitant d'une exhibition à l'Ouest, Bella Caroli échappe à la surveillance et demande l'asile politique aux États-Unis. Un coup du sort pour Nadia, surveillée dès lors quotidiennement par trois agents de la Securitate. Privée de son mentor, elle décide en 84 de prendre sa retraite sportive et s'inscrit en fac où elle va retrouver Nicu, le fils du dictateur, buveur et coureur invétéré avec lequel elle entretiendra une relation plus ou moins forcée. Les années passent, le rideau de fer commence à se lézarder un peu partout en Europe, sauf en Roumanie où les Ceaușescu résistent. C'est alors que Nadia choisit de braver le sort et de gagner l'Ouest à l'issue d'une évasion rocambolesque à travers forêts et étangs en pleine nuit pour rallier la Hongrie.
La gymnaste Nadia Comăneci quitte la Roumanie et fuit le régime Ceaușescu, des raisons politiques mais aussi sentimentales. Bonsoir, Nadia Comăneci a quitté la Roumanie hier soir avec six de ses compatriotes. Elle a franchi la frontière entre Roumanie et Hongrie. On n'exclut pas qu'elle soit déjà passée en Autriche avec un faux passeport. Une fuite qui était, semble-t-il, préparée de longue date.
Deux jours plus tard, la voici à New York où elle donne une conférence de presse.
I wanted to have a free life.
Je voulais avoir une vie libre. J'avais ça en tête depuis très longtemps, plusieurs années. Je voulais juste te dire quelques mots. Je suis très contente d'être ici en Amérique et je voulais venir depuis très longtemps.
Visage bouffi, maquillage appuyé et cheveux raccourcis, Nadia n'a plus grand-chose avec la petite fée de Montréal. Certains l'accusent même ce jour-là d'être une briseuse de ménage et d'avoir quitté le pays au bon moment pour ne pas risquer d'être accusée de collaboration avec un régime honni qui, quelques semaines plus tard, est renversé par la révolution roumaine. Mais de cela, Nadia n'en a cure, elle est désormais américaine et va petit à petit se reconstruire dans ce pays qui l'a fait rêver depuis toujours. En 1996, elle épouse une autre légende, Bart Conner, ancien gymnaste comme elle, champion olympique comme elle, et donne naissance 10 ans plus tard à un petit Américain prénommé Paul Dylan. Une jolie famille qui depuis coule des jours heureux entre Oklahoma et Roumanie, où la championne, toujours adulée, revient régulièrement et où elle a même fondé un centre sportif pour les enfants. 46 ans après ses exploits canadiens, le nom de Comăneci reste la référence absolue, le symbole même de la gymnastique. Quant à son prénom, Nadia, il suffit de le prononcer pour que surgisse l'image de cette petite fille au visage sérieux et appliqué. La petite communiste avait la réputation de ne jamais sourire. Elle avait autre chose à faire, gagner.
Gagner avec un 10 sur 10 notamment qui restera dans l'histoire du sport, l'histoire des Jeux Olympiques. Nadia Comăneci racontée par Christophe Cessieux dans un nouveau numéro de C'était mieux avant, évidemment à retrouver en podcast, et tous les autres numéros spécial Jeux Olympiques mais pas que, à retrouver en podcast sur rmcsport.fr. Dites-moi ce que vous avez retenu là, un moment de cette histoire racontée par Christophe. Sarah,
son évasion, je savais qu'elle avait été aux États-Unis mais je ne savais pas dans quelles conditions elle était arrivée aux États-Unis et que c'était quelques semaines avant la chute du communisme et de Ceaușescu en Roumanie. Ça, je savais pas. Mais en tout cas, c'est ce genre de. Alors, c'était petite fille. Moi, c'était les sportifs qui m'inspiraient. En tout cas, voilà, c'était les histoires de jeunes filles comme ça qui m'ont donné envie de faire du sport.
Moi, ce qui m'impressionne, c'est évidemment le sportif dans ce cas-là, parce que c'est vrai qu'un 10 sur 10, c'est incroyable, et c'était la première fois, et c'est fantastique, mais c'est destin de vie. C'est destin de vie, parce que, effectivement, t'es au sommet de ta gloire, et tu peux pas vraiment en profiter, parce que t'es dans un régime qui est trop compliqué, parce que ça se passe pas comme tu voudrais, et que t'es obligé de t'évader.
Une vie romanesque, c'est incroyable. Une vie incroyable.
En fait, tu pourrais même pas l'inventer, tellement c'est incroyable.
Et qui te récupère, justement, lui aussi a été récupéré par le pouvoir français. David Douillet, hein. Un mot sur Nadia.
Non, enfin, moi, j'ai la chance de la connaître perso,
Et franchement, en voyant comment elle vit aujourd'hui, pour moi, c'est la Roumanie, Nadia, en réalité. De par ce qu'elle a été, de par ce qu'était la Roumanie, et de par ce qu'elle est aujourd'hui en tant que femme, et de ce qu'est la Roumanie aujourd'hui. C'est un formidable pays, avec des gens extraordinaires, qui n'ont de cesse que de s'ouvrir vers le monde, qui sont vraiment dans... Ils sont passés d'une oppression totale, d'une dictature totale, à une intelligence de respect des gens qui et de vouloir travailler avec tout le monde, de vouloir vivre avec tout le monde, qui est assez extraordinaire et fondamental. C'est un pays à prendre en exemple, vraiment. C'est Nadia, c'est la Roumanie en fait, et c'est la Roumanie d'hier et c'est la Roumanie d'aujourd'hui. Voilà.
Évidemment, un nouveau numéro de C'était mieux avant, ce sera dimanche prochain. Merci beaucoup les GG d'avoir été...
Merci à vous.
JC, il y a une de tes paroles qui m'a profondément blessé. Tout à l'heure, il y a une parole qui est passée inaperçue où tu as dit « c'est les journaleux contre les sports ».
C'est moi qui l'ai dit.
C'est moi qui l'ai dit. Ce n'est, Christophe, franchement, mais c'est nul, c'est pas vrai. Vraiment,
on va pas faire le débat. En plus, moi, j'ai rien dit.
Non, on fait pas de débat, mais moi, c'est un point fondamental des GG, du fondement et des fondations des GG. On n'est que des passionnés de sport.
Mais oui. Non, mais c'était juste étonnant, il y avait ces positions, ça me faisait marrer parce qu'on était...
Non, on essaye. Tu sais, Fred et Sarah et moi, on essaie de se mettre à vos niveaux de palabreux, de gens qui.
Tu vois, c'est toi qui es le premier à dire la différence.
Oui, la différence. David, ça le t'as raison, Christophe sera viré. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir écoutés. Tout de suite, les paris RMC autour de Roland Garros.